La France à Macron. Moi, si je devais parler de la France à Macron, je dirais la France à l'époque de Macron. C'est pas tant celle qu'il a décidé de mettre en place.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces expressions qui flottent dans l'air du temps, petits papillons mutins qu'on attrape avec le filet rieur du gai savoir. Aujourd'hui, une expression que j'entends souvent puisque j'appartiens à la génération qui l'a forgée, la Gen Z. Ces jeunes qui ont grandi sous Macron et qui en ont visiblement un peu marre de la présidence jupitérienne, car ils ont inventé le terme péjoratif « la France à Macron ». Expression qui a évidemment profondément choqué Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, pour qui le président Macron n'est certes pas exempt de défauts, il est notamment trop à gauche, mais en revanche, ça n'autorise personne à violenter la langue française en parlant de la France à Macron, alors qu'il faudrait parler évidemment de la France de Macron, que ces pignoufs de jeunes apprennent déjà à parler français. Ensuite, ils se permettront de critiquer, avait conclu Cyril en conférence de rédaction, la France à Macron, une critique frontale et subversive qui avait également suscité l'agacement du dernier macroniste de France, Pierre Courade. Notre rédacteur en chef adjoint qui, de la pyramide du Louvre au Champ de Mars, a toujours été au premier rang avec une pancarte « On t'aime Manu » dans les moments forts des deux derniers quinquennats. Bref, aujourd'hui, il n'y a finalement que moi qui voulais faire cette émission question de génération, certainement. Alors, que nous dit la Gen Z quand, dans les manifs, elle crie qu'elle ne veut plus de la France à Macron ? C'est quoi, cette France à Macron ? Et si ce n'était pas une faute de français, mais une manière de dénoncer l'appropriation du pouvoir par un président trop vertical, l'hypothèse, quoique écartée par Cyril et Pierre qui jugent les jeunes incapables d'une telle subtilité au motif que, je les cite, « on ne peut pas aimer Jules et être subtil », mérite néanmoins d'être étudié. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
C'est la première fois que vous prononcez bien Jules.
C'est la première fois en combien d'émissions ? Bah, on va regarder. En 670 émissions.
Bravo, Mathieu.
C'est bien le relevé.
Jour dans l'histoire
c'est bien le relevé.
Zoom. C'est vrai.
Ça mérite presque un moins un, ça.
Ça mériterait presque même un moins deux
non,
pour
oui,
cette
ça
insolence.
Va
vous avez tout à fait raison. Moins deux pour le quiz. Tout à l'heure au quiz, Manon, c'est mérité.
C'est vraiment le pire.
Bonjour, Léa Chamboncel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes journaliste. Vous avez créé le podcast Popol en 2020 pour rendre la politique, je cite, plus accessible et moins chiante. Vaste programme. Vous dépoussiérez l'analyse politique en invitant de nouveaux visages et en ayant une ligne directrice, le féminisme. Que dit ce terme de la France à Macron, utilisé essentiellement par la Gen Z sur TikTok ? Qu'est-ce qu'il regroupe ? Qu'est-ce qu'il résume ? Et c'est quoi cette France dans laquelle grandit depuis près de 10 ans maintenant la jeunesse française ? Vous allez tout nous dire. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui ont évidemment un devoir de réserve vis-à-vis de l'actualité politique. Même si plus ça va, moins Manon cache sa déception quant au macronisme. Elle aurait même déclaré récemment
« Cette merde, c'est fini pour moi. »
Cette merde. Attention Manon, tâchons tout de même de rester neutre. Chaque après-midi, Manon,
oui,
vous nous envoyer une petite pièce jointe.
Et cet après-midi, elle concerne une femme, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la première dame de France, moquée, attaquée, scrutée, cyberharcelée, mais qui a aussi énervé pas mal de féministes dernièrement. Petit portrait de Brigitte Macron.
Face à vous, Léa, il déteste que je le fasse passer pour un macroniste en me basant sur cet extrait où il semble pleurer la mort du macronisme, extrait qui ne fait rire que nous, c'est-à-dire toutes les personnes au monde qui ne sont pas lui.
89% des Français estiment que le macroniste est d'ores et déjà mort. Mort.
Rassurez-vous, Quentin, tout le monde sait que vous n'êtes pas macroniste et que pour vous, la France ne se redressera qu'avec le seul homme politique qui ose dire tout haut ce que les Illuminati pensent tout bas, François Asselineau, bien sûr. On attend évidemment la prochaine présidentielle.
Même plus de ce côté-là, c'est marrant ça.
Ça, c'est un scoop. Heureusement, c'est donc sans a priori que vous êtes allé faire réagir les passants à cette expression prisée des jeunes, la France à Macron.
Je vais faire comme Cyril Lacarrière. C'est-à-dire que quand il trouve une de vos blagues pas si drôle que ça, il fonce.
Voilà.
Hein, il relève pas.
C'est vrai.
Il fonce.
C'est dans son teaser. Il bouge pas.
Vrai, il bouge pas. Il reste dans son couloir.
Stoïque.
Et
ça,
il enchaîne.
Ça, je trouve que c'est une bonne stratégie. Mais le temps de vous dire ça, j'ai déjà fini mon teaser.
Ah ouais, c'est fini.
On part dans les rues de la France.
C'est bon. Est-ce que ça va être complètement la rue ?
Alors, en tout cas, complètement la rue de la France à Macron. C'est pas pareil.
Là, c'est compliqué.
Ce sera avancé.
De la poudre de perlimpinpin au récent.
For sure.
Notre président a toujours eu le sens de la formule. À 16h30, le Zoom Zoom Test sera consacré au meilleur punchline d'Emmanuel Macron. Un quiz qui sera, je vous l'annonce, difficile, car j'ai très envie de vous emmerder. Après 17h, restez avec nous. Nous serons avec une championne, Marie Bochet, 22 fois championne du monde de paraski à l'occasion de l'ouverture dans 9 jours des JO d'hiver de Milan-Cortina. Mais d'abord, Léa Chamboncel, zoomons donc sur cette expression qui revient pas mal dans les manifs. Je le sais puisque j'y suis un dimanche sur deux. Est-ce que l'expression « la France à Macron » marque avant tout une rupture générationnelle.
Alors, c'est une bonne question, effectivement, et je ne pense pas que ce soit l'expression en soi qui marque la rupture. La rupture entre les générations, elle est liée à la vulnérabilité sociale dans laquelle sont plongés les jeunes, la jeunesse de manière plus générale aujourd'hui. Donc je pense que la rupture, elle est surtout là. Après, la rupture, elle est peut-être aussi en termes de plus de format et de levier, c'est-à-dire où s'exprime cette jeunesse par rapport aux générations précédentes.
On va voir ça avec vous pendant une heure. La France à Macron passe encore. Mais si jamais un jour un de ces buveurs de matcha ose parler de la France à Sarkozy, alors qu'on dit la France du président Sarkozy, je bloque tous les jeunes qui me suivent sur Instagram. Ça fait donc 7 personnes tempêtées. Cyril Lacarrière, notre maître capello de droite à nous. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu.
C'est
bonjour
pas si faux,
bonjour
je
à tous. Je sais pas.
C'est pas si vrai non plus. Cyril, on peut regarder ses stats. On regardera après.
Très bien.
On fera ça.
Maman a décidé qu'elle regarderait mes stats après.
Très bien. Après, c'est notre expert réseaux sociaux.
C'est vrai.
Des formations professionnelles. Alors, racontez-nous, Cyril, cette expression « la France à Macron », d'où ça sort ?
Imaginez, vous êtes dans une manif et vous entendez « on n'en veut pas de la France à Macron ». Alors déjà, effectivement, vous vous dites qu'au niveau français, ça ne va pas, mais la faute se répète chez d'autres manifestants. Ça sonne un peu comme la bande à Bono, ces bandits du début du XXe siècle. Et puis, c'est familier, c'est possessif. C'est aussi une rupture linguistique. Traditionnellement, on parle de la France de De Gaulle ou de la France de Mitterrand, le « 2 » servant de marqueur temporel, il permet de désigner une époque. Le « A », c'est tout autre chose, il désigne une possession. Quand on dit la France à Macron, on dénonce une dérive patrimoniale du pouvoir.
Une dérive qu'Emmanuel Macron a sans doute initiée.
Après l'échec de la présidence normale de François Hollande, c'est lui qui théorise la présidence jupitérienne, c'est-à-dire une verticalité du pouvoir. C'est lui qui tranche, c'est lui qui décide, très au-dessus de la mêlée, sauf quand vous tout incarné, il finit par tout absorber. Et comme il décide de tout, alors tout devient de sa faute. La France devient son terrain de jeu. Alors dire la France à Macron, ça devient une manière de dire, ce n'est pas ma France, c'est la sienne, celle de ses amis, celle des premiers de cordée. Alors d'où ça sort la France à Macron ? Eh bien d'une crise démocratique profonde, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Léa Chamboncel, Cyril parlait de slogans qu'on peut entendre dans les manifestations. Ça veut dire que cette expression, la France à Macron, elle est née sur les réseaux sociaux et elle s'est ensuite retrouvée dans la rue ? C'est dans ce sens-là ?
Oui, oui, absolument. Et c'est d'ailleurs un phénomène assez intéressant. Alors, il y a eu diverses versions. La France de Macron existe aussi. Donc, parfois, on voit... Il y en a qui disent « 2 » et c'est sous-titré « A ». Enfin bref, il y a quand même encore un doute sur ce glissement sémantique auquel je ne souscris pas tout à fait non plus, mais enfin, on peut en discuter plus tard. Et donc, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aujourd'hui, finalement, les lieux de lutte sont assez poreux. À savoir, avant, traditionnellement, on prenait la rue, clairement. Et aujourd'hui, on voit à quel point les réseaux sociaux, les plateformes Internet sont importantes pour l'organisation des mouvements, que ce soit pour les Gilets jaunes. Facebook a été fondamental. Je pense aussi aux récentes manifestations qu'il y a eu au Népal, mais aussi au Maroc, où Discord a joué un rôle assez important, et notamment à travers, via la Gen Z. Donc en fait, on voit qu'il y a effectivement un glissement de ce qui se passe à la fois en ligne et ce qu'on dit communément in real life. Donc effectivement, il y a eu cette appropriation par la rue, mais je pense que c'est aussi synonyme du fait que les revendications sont finalement les mêmes, c'est-à-dire, pointer du doigt une situation économique, social, assez catastrophique depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. Et ça, on peut d'ailleurs le montrer avec des chiffres.
On évoquait la Gen Z, on va en reparler, mais ça veut dire aussi que ce slogan « la France à Macron », c'est un slogan mobilisateur pour d'autres franges de la population, pas que les jeunes.
Absolument, absolument. Mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir à quel point ça peut faire un peu convergence. Mais au fond, ce qui est mobilisateur, comme je viens de le dire, ce n'est pas tant le slogan, c'est la réalité. La réalité de cette crise sociale que l'on traverse, avec, bon, rappelons-le, l'INSEE qui sort des chiffres, près de 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, ça frappe plus particulièrement les jeunes qui sont ceux qui se mobilisent effectivement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un étudiant sur deux ne mange pas correctement, enfin, il y a quand même des choses qui sont assez problématiques, et donc le fond est le même, je veux dire, et peut-être aussi le ras-le-bol. Et le coupable tout désigné aussi est le même.
Un ras-le-bol qui peut aller jusqu'à une forme de déni démocratique. Il faut pas oublier que Macron a quand même été élu 2 fois. Est-ce que ça peut aller jusque-là derrière ce slogan, il y a cet appel-là ou pas ?
Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, si on doit parler de déni démocratique, je veux dire, Macron est quand même plutôt coutumier du fait. Hein. Je vous rappelle le fait qu'il n'ait pas respecté aussi les résultats des élections législatives anticipées de 2024, etc. Donc, je pense qu'il a aussi...
Sa part responsabilité
en l'occurrence. Non, parce qu'en plus, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que c'est une forme de politisation. Et d'ailleurs, c'est encore plus intéressant de voir que Macron, lui, dans sa communication auprès des jeunes, et notamment sur les réseaux sociaux, cherche à dépolitiser. Quand il reçoit McFly et Carlito pour faire des roulades dans les jardins de l'Élysée, on ne parle pas de politique. On dépolitise à 100% l'intégralité du discours. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce que finalement, ça lui revient un peu en pleine face comme un boomerang. Lui qui a cherché à dépolitiser se retrouve face à une jeunesse qu'il a vraisemblablement mal comprise ou peut-être voire méprisée. Ça aussi, c'est un aspect important. La classe politique méprise les jeunes, de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'ils n'y voient pas un vivier électoral. Ils n'y voient pas des voix potentielles.
Et ils ont peut-être tort. Parce que
et ils ont certainement tort. Et d'ailleurs, si à un moment donné, on peut parler aussi des leviers pour remobiliser cette jeunesse...
Nous allons y venir, effectivement.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
En 2017, ils avaient échappé à la France de François Fillon. Résultat, ils se retrouvent aujourd'hui avec la France à Macron et ils en ont marre. Zoom sur l'expression de la Gen Z, la France à Macron, une expression qui revient pas mal sur les réseaux sociaux, TikTok en particulier. On est avec la journaliste Léa Chamboncel, créatrice du média spécialisé Popol. Léa, est-ce qu'au fond, c'est pas dans l'ADN de la jeunesse, quelle que soit l'époque, de critiquer le pouvoir ? On disait pas forcément la France à De Gaulle, ou la France de De Gaulle en 68, mais les manifestants finalement auraient pu ? Il y a une lassitude d'une sorte d'establishment là, qui ne bouge pas depuis longtemps ?
Oui, alors je pense qu'il y a effectivement un prisme anti-pouvoir lorsqu'on est jeune. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre jeunesse, Mathieu, je me
permets. Elle est loin,
mais justement, essayer de convoquer quelques souvenirs, même s'ils sont vagues. Je plaisante, évidemment. Mais voilà, c'est peut-être les moments les plus contestataires des vies. Enfin, ce n'est pas 50 ans, enfin, après, à moins qu'on soit très très punk jusqu'à très tard. Et
non,
très
mais blocus au lycée,
mais voilà,
ce
les
genre
blocus
de choses.
De lycée, la fac, enfin, moi j'ai vécu le CPE. On a fait occupation de fac, etc. Enfin, je ne me vois pas le faire aujourd'hui dans les locaux de France Inter, typiquement. mais à voir. Mais non, il y a effectivement, je pense, un prisme assez contestataire lorsqu'on est jeune, mais qui fait partie aussi de la construction intellectuelle et aussi politique. Hein. On se politise souvent dans les années lycéennes, les années, et notamment grâce aux mouvements sociaux. Enfin, beaucoup de personnes qui sont politiques, Cohn-Bendit étant le meilleur exemple. Enfin, il y en a d'autres hein, qui ont fait leur carrière politique. L'UNEF, c'est une écurie pour les membres du PS plus tard et le personnel de la classe politique à gauche. Donc voilà, c'est quand même, il y a des liens assez forts.
Donc c'est sain,
Je pense que c'est sain. Après, la particularité, à mon avis, c'est que moi, ce que j'ai analysé, c'est que souvent la jeunesse, lorsqu'elle se structure, elle se mobilise, c'est contre des réformes. Je pense au CPE, qui était assez c'était Villepin. Voilà, c'est lui qui portait, c'était pas Chirac.
Villepin qui est maintenant de gauche, c'est quand même fou. Les temps changent, c'est incroyable.
Je ne suis pas tout à fait convaincue, mais enfin, on pourrait avoir le débat.
J'ai quand même mon droit au second degré, tout de même, dans cette émission.
Oui, c'est dire à quel point on a glissé. Mais effectivement, rappelons, Villepin, c'était aussi le CPE. Et donc, du coup, je me souviens, moi, dans les manifs, c'était Villepin qui était visé. C'était pas Chirac, c'était pas le président de la République. Donc, c'est particulier, je pense. Là, en l'occurrence, je crois que Macron, comme vous le disiez plus tôt, en jouant cette hyper-incarnation du pouvoir, cette verticalité... Je veux dire, qui est capable de me citer le nom du ministre de l'Éducation ?
Et pas moi. Ils ont tellement changé rapidement.
Non. Bon, je vous le dis, c'est Édouard Geffray. Voilà.
Édouard Geffray.
Voilà.
Enchanté, monsieur.
Alors moi, je le sais parce que c'était mon ancien directeur de prépa, mais sinon, je serais complètement passé à côté de l'information, ça, c'est certain.
Donc c'est pour ça qu'on dit la France à Macron, c'est parce que lui cristallise.
C'est lui qui cristallise, mais parce qu'il cherche à cristalliser. C'est son style. Il délègue pas. Et puis il y a eu énormément de remaniements. Je veux dire, faut quand même arriver à suivre. Mais moi, en tant que journaliste politique, je vous cache pas que.
Ah, mais depuis le tournu 2.
Non, mais voilà, c'est quand même quelque chose. Donc forcément, ça joue. Donc là, la particularité, c'est que je pense que le fait d'avoir joué sur cette verticalité, sur cette omniprésence, mais aussi sur le fait de parler aux jeunes en direct, ça c'est aussi assez inédit. Alors, François Hollande ne l'a pas trop fait, alors avant, on oublie, mais Macron va sur les réseaux sociaux, il fait
oui, mais ça marche
des
pas,
lives.
Évidemment.
Non, ça ne marche pas
super, ça marche
mais,
pas.
Mais on le voit.
Mais il y a aussi des faits, tout simplement. L'an dernier, près de 2/3 des étudiants disent avoir déjà sauté un repas pour des raisons financières.
Absolument.
C'est ça aussi la France à Macron qu'il dénonce.
La France à Macron, effectivement, c'est une jeunesse qui n'a aucune perspective d'avenir, ou très peu. C'est une jeunesse qui est appelée à rentrer dans le rang. Souvenez-vous du discours de Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Enfin, quand même, je trouve pas que ce soit très très vendeur pour notre jeunesse. C'est une jeunesse aujourd'hui qui est appelée à refaire le service militaire. Hein. Ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps. C'est une jeunesse qui effectivement...
C'est volontaire. Sur la base du volontariat.
Bien sûr, mais quand même, c'est une fracture. Enfin, c'est pas rien comme annonce. C'est effectivement une jeunesse qui se retrouve à être excessivement précarisée, étudiant ou pas, d'ailleurs, hein, parce que je vous rappelle que le RSA n'est pas accessible avant 25 ans, donc ça aussi, c'est très problématique. Des gens qui, effectivement, sont obligés de sauter des repas.
Mais il y a un paradoxe, Macron, parce que c'est le plus jeune des présidents qu'on
ça,
ait eu.
Un paradoxe,
il n'arrive pas à s'adresser aux jeunes. Il a même dit « je ne les comprends pas ».
Je ne comprends pas
les adolescents.
Alors là, à sa décharge, et pour être sympathique avec lui, c'est rare, je crois que là, il a raison. Vraiment.
C'est-à-dire ?
Il ne les comprend pas.
Ah oui, oui.
Et je pense qu'il est sincère.
Oui, mais il pourrait essayer, il est président.
Vous connaissez le concept du jeune vieux et du vieux jeune ?
Oui.
Bah voilà. On est dedans, quoi. Je veux dire, Macron, il était déjà vieux, à mon avis, quand il avait 17 ans. Enfin, je ne veux pas caricaturer.
Mais il pourrait s'intéresser à la jeunesse aussi.
Il ne s'y intéresse pas. Mais encore une fois, je vous le dis, mais il faut être un peu cynique dans ces moments-là, hélas. Les jeunes ne représentent pas un vivier électoral. C'est-à-dire que les jeunes, déjà, de fait, les jeunes ne votent pas conservateurs, et on peut dire qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement est relativement conservatrice, je pense qu'on est d'accord là-dessus.
C'est purement électoraliste pour vous, il n'y a pas d'ossature idéologique chez Macron, c'est il va chercher les voix, ou il est allé chercher les voix qui l'intéressaient.
Et je pense, je pense aussi qu'il y a une certaine forme d'incompréhension, mais aussi une forme de mépris. Comme beaucoup de membres de la classe politique, de se dire les jeunes en fait sont juste là pour foutre le bordel, alors qu'en réalité c'est l'avenir de notre pays et que c'est fondamental.
Lui, quoi qu'il en dise, il fait partie de ces entrepreneurs qui ont largement bénéficié des mesures économiques d'Emmanuel Macron. La flat tax à 30% sur les revenus du capital, notamment, a changé sa vie. Forcément, quand on brasse des millions avec une licorne aussi valorisée que la Lui Entertainment Worldwide, on est bien content de n'être taxé qu'à 30%. Quant à la suppression de l'ISF, ça aussi, quel cadeau, écrivait-il à son tonton milliardaire, émoji clin d'œil, émoji dollar. Quentin, vous allez demander aux gens ce qui... Il va bien votre tonton d'ailleurs ?
Vous êtes contradictoire aussi.
Comment ça, il est toujours au large de la Sardaigne ? Il mouille toujours au large de la Sardaigne ?
Il est à l'île Maurice, là, je crois.
Prends-toi en frais.
Oui, c'est la saison, vous avez raison, c'est l'été à l'île Maurice. Quentin, vous êtes allé demander aux gens ce qu'ils pensaient à cette expression, la France à Macron.
Je marche dans les rues. Alors, dans les rues de la France à Macron, difficile à dire. En tout cas, je marche avec au bout de mon bras cette expression du jour. Première rencontre, ce monsieur. Pas commode au premier abord.
La France à Macron. La France de... D'abord, on ne dit pas à Macron, on devrait dire la France de Macron. Et encore, je ne sais même pas, je ne comprends pas. C'est pas du français, votre expression. Donc c'est soit la France dans l'état dans lequel l'a laissé Macron, et auquel cas je vous dis c'est une catastrophe pour tout le monde, pour les riches comme pour les pas riches, enfin, etc. Et voilà.
Je reviens sur le bilan qu'il dresse, une catastrophe.
Oui, une catastrophe, oui. C'est, il a rien fait de bien, ça fait presque 10 ans qu'il est là, il dit tout et n'importe quoi et son contraire, nous laisse la France dans un pays, dans un état absolument catastrophique. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il parte le plus tôt possible, voilà.
Bon, je me doutais qu'avec la cote de popularité actuelle du président de la République, j'aurais évidemment ce genre de réaction. Mais je vais essayer avec quelqu'un d'autre, Roland maintenant, qui sort d'un rendez-vous.
La France à Macron. Bah déjà, c'est du mauvais français. Déjà, pour commencer, c'est un peu comme aller au dentiste. Ensuite, finalement, je trouve ça assez musical, la France à Macron. Ça, c'est pas agressif comme expression.
La France à Macron.
C'est notre réalisatrice Alicia Vulot qui doit certainement être en couple libre avec l'intelligence artificielle créatrice de ce genre de pub pop. Bref, revenons à nos moutons. Nous parlons de la France des riches, des ultra-riches, des privilégiés et de l'autre France.
Moi, si je devais parler de la France à Macron, je dirais la France à l'époque de Macron. C'est pas tant celle qu'il a décidé de mettre en place. D'ailleurs, si elle ressemblait à celle qu'il aurait voulu, ça serait sans doute pas celle-là. Eh ben, je trouve qu'on lui porte beaucoup d'intérêt. C'est à la fois agréable pour lui et en même temps, sans doute que ça doit être pénible parce que vous l'avez dit vous-même. La France à Macron, c'est la France d'Arnaud. Et la France d'Arnaud, c'est la France d'Arnaud, c'est pas la France à Macron.
Alors, la France à Macron, c'est quand même aussi un moment d'errance politique assez rare.
Ah oui, si, peut-être. Si dans les livres d'histoire, on le raconte dans 20 ans, on dira que c'est une époque chaotique dont le point de départ aura été cette décision de dissolution. C'est possible. Mais je trouve ça anecdotique quand même.
Et pour Roland, on prête finalement trop d'attention à ces deux quinquennats, au temps présent, de ce que va laisser comme trace dans les livres d'histoire cette France à Macron.
La seule responsabilité qu'on pourrait prêter à Macron, qui est vraiment évidente, c'est qu'il s'est présenté comme un président disruptif. Je casse le concept d'une alternance gauche-droite. Ce qui veut dire que je prends une immense place au centre. Je rejette tout ce qui n'en fait pas partie sur les extrêmes. Autrement dit, si vous dynamitez le centre, vous faites de la place pour les extrêmes. Et donc le côté disruptif, il en a l'entière responsabilité, mais comme il a été élu sur ce principe, la responsabilité est partagée avec les Français.
Hey, c'est pas totalement de sa faute. Ma dernière rencontre, c'est Camilia, la trentaine, qui s'est abritée sous son parapluie.
La France à Macron, c'est pas grand-chose. C'est tout et n'importe quoi.
Mais alors pour elle, à qui il parle Emmanuel Macron ?
Aux ultra-riches, il parle à la bourgeoisie, il parle à l'extrême droite, il parle à tous ces gens-là. Mais pas aux autres.
Vous, il vous parle jamais ?
Non. Il m'est très antipathique.
Pourquoi ?
Dans toutes ses formes.
C'est gentil.
Je sais pas.
Lui... Même avec ses lunettes de soleil ?
Encore plus. Lui, sa personne. Vraiment. Il est tellement, je sais pas, dans son monde. Hors de... Il n'entend pas. Il n'écoute pas.
Avant de filer, je lui fais remarquer que depuis quelques jours, et notamment depuis ses prises de parole contre le président des États-Unis, sa cote de popularité remonte.
C'est sûr que c'est une stratégie pour lui de se positionner anti-Trump, tout en continuant à parler aux gens qui ont de l'argent et voilà, qui sont l'extrême droite, la droite. Voilà,
ouais, vous êtes remontée.
Oui, je suis remontée.
Vous êtes dans quelle France si vous n'êtes pas dans la France à Macron, vous ?
Je me retrouve de nulle part, je sais pas. Je suis socialiste.
Il l'était aussi.
Ouais, il l'était. Il a dérivé, il s'est perdu en mer. Je dois avouer, alors que j'étais le genre de personne qui disait qu'il fallait pas faire ça avant, mais en ce moment, je décroche un peu de tout ce qui est politique, social. J'ai besoin de respirer. Et c'est irrespirable en ce moment, voilà.
Petite rectification, j'ai fait une petite erreur en discutant avec elle.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Mais, je veux dire, quelle importance ?
Bah oui, alors, ouais. Quelle importance ! Camilla, qu'on a entendue, hausse les épaules, elle ne s'énerve pas, elle ne conteste même plus. À force de ne pas se sentir concernée par cette France-là, elle l'a décrochée, moins d'intérêt, moins de colère, et bientôt peut-être plus de vote, on en parlait lundi avec le nepaïsme, et peut-être que la France à Macron, c'est ça aussi, un pays qui continue de parler politique pendant qu'une partie des Français s'en éloigne en silence.
Merci Quentin. Aïe, 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 plus beaucoup de macronistes dans les rues, dis-le. Heureusement qu'on entendra Pierre Courade tout à l'heure dans l'émission. Léa Chamboncel, le risque est-il que la France à Macron a provoqué un tel désengagement politique qui pourrait devenir dangereux avec cette Camilla qui, par exemple, nous dit qu'elle se désengage parce qu'à un moment, il y a un tel ras-le-bol qu'elle n'a même plus envie de s'engager.
Oui, alors le risque est assez évident. Et d'ailleurs, on le voit, l'exemple de Camilla est quand même assez évoquant. J'ai envie de vous dire, même moi, parfois, j'en ai un peu ras-le-pompon, hein, pour garder une expression sympathique.
Et vous, c'est votre métier.
Et pourtant, et moi, c'est mon métier, donc j'ai pas vraiment le choix. Mais il y a un épuisement, politique, du fait des différents événements. Enfin, on se fait les européennes, ensuite on enchaîne sur des législatives, mais bon, on tergiverse, on respecte pas les résultats, on préfère dire que finalement, c'est la droite qui a gagné, mais pourquoi ? Enfin bon, bref, c'est très difficile d'un point de vue, ne serait-ce que cognitif.
C'est vraiment très difficile de suivre cette trahison-là, entre guillemets, que les jeunes ne digèrent pas, là, cette France à Macron, ce qui s'est passé après la dissolution, après les résultats
législatifs. Alors là, oui, déjà.
C'est le point central.
Pourquoi ? D'une part, alors, le point central, je ne pense pas encore une fois, moi je pense que vraiment le point central, c'est la situation économique et sociale, c'est la vulnérabilité dans laquelle une grande partie de la population est désormais tombée. Mais effectivement, je pense que le fait de ne pas avoir respecté les résultats, rappelons quand même qu'il y a eu une mobilisation exceptionnelle pour ces législatives. Hein. 60% de participation, c'était vraiment, vraiment exceptionnel.
Aussi de la part des jeunes ?
Et plus particulièrement de la part des jeunes. Il y a eu une mobilisation, donc ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Moi, je ne peux pas dire que les jeunes sont désintéressés de la politique. Pourquoi ? Parce qu'on voit que... Déjà, je pense que le problème, c'est qu'on juge l'engagement politique des jeunes qu'à leur participation aux élections. C'est fondamental. Hein. Il faut, d'ailleurs, petite parenthèse, importante néanmoins, il y a aujourd'hui en France 10 millions de mal inscrits sur les listes électorales, dont la moitié sont des jeunes. Donc il y a des associations comme A Voter, typiquement, qui fait de la sensibilisation, qui dit qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. Attention, vous avez jusqu'au 4 février pour vérifier si vous êtes bien inscrit au bon endroit, parce que souvent, les jeunes, notamment les étudiants et étudiantes, sont contraints à une mobilité. Ils vont étudier ailleurs, donc ils se retrouvent le dimanche, ah bah, palaboum, en fait, je dois aller voter dans le village de mes parents, mais je suis trop loin, je peux pas y aller, j'ai pas l'argent pour payer mon billet de train. Bref,
ça se fait en ligne ou faut se présenter en mairie ? C'est important
de le
dire.
Alors, en ligne jusqu'au 4 février et en mairie jusqu'au 6 février. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Il n'y a pas une volonté de ne pas participer. Moi, quand je parle avec des jeunes, et je vulgarise la politique sur les réseaux sociaux et aussi sur les plateformes type Twitch et les podcasts, etc., je vois qu'il y a un véritable intérêt. Nous, sur une émission sur laquelle je participe qui s'appelle Backseat sur Twitch, on a des dizaines de milliers de viewers, des centaines de milliers par mois. Et ce sont essentiellement des jeunes. Donc, on ne peut pas dire que les jeunes sont éloignés de la politique. Néanmoins, les jeunes sont éloignés de la politique institutionnelle. Donc, les jeunes sont éloignés des les institutions ne se sentent pas représentées à juste titre, notamment quand on voit la représentation sociale au sein de l'Assemblée nationale où il y a très peu de jeunes. Et là, là-dessus aussi, il y a des associations, il y a l'UNICEF, il y a Démocratie Ouverte, d'autres associations qui plaident pour abaisser la majorité de vote à 16 ans, parce qu'on voit que ça booste en fait la participation politique.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, me confiait Cyril à propos du président Macron. Car en dépit de l'intérêt avoué du chef de l'État pour l'OM et les super riches, deux des passions de notre rédacteur en chef, ce dernier n'a jamais cédé aux sirènes du macronisme, estimant qu'ayant été ministre de François Hollande, un rouge restait un rouge. Mais voilà, les temps changent. Times are changing. Quand il a découvert le nouveau look de Macron avec ses lunettes d'aviateur, ça lui a rappelé le président Sarkozy entouré de gardes du corps, faisant son jogging en t-shirt NYPD à Brégançon.
Ah oui,
et une larme a commencé à rouler le long de son visage pour venir s'échouer sur un bout de brie aux truffes resté coincé dans sa barbe. Voilà pourquoi c'est finalement la main sur le cœur que Cyril va écouter en régie ce quiz consacré au meilleur punchline d'Emmanuel Macron dont il vous faudra retrouver le contexte. Jouons au Zoom Zoom Test. Et on commence avec une citation qui reflète bien l'insondable modestie de notre président qui ne s'était pas comparé à Jupiter pour rien. Cette citation, la voici. « Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. » Un indice, le chef de l'État ne parlait ni du Zoom Zoom Zinc, ni de la tentative de Dry January de Manon. Mais alors, de quoi pouvait-il bien parler ?
Il n'y a pas eu de tentative, mais oui.
De quoi, c'est vrai. De quoi parlait-il ? De la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin.
Ah, ça aurait pu.
De l'application Stop Covid.
C'était horrible ce truc.
Ou de l'introduction de son discours à Davos.
Mais Léa nous a aidé là.
On a notre invité qui nous fait des signes.
Oui.
Léa, vous êtes coquine. Attention,
on va
Léa.
Pouvoir se départager. Ouais,
c'est une bonne réponse. La réponse B. Mercredi 14 octobre 2020 sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron annonce que l'application Stop Covid, pourtant téléchargée plus de 2 millions de fois, n'a généré que quelques centaines de notifications à de potentiels cas contacts. Un léger fail et une question hyper facile pour vous, sachant que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby ou du Jardin faisait la passe à un faux pain avec un faux pain campagnard à un type déguisé en coq avait été un franc succès, comme d'ailleurs l'intro.
Finge.
Comme l'intro de son discours à Davos.
It's great to be here as a financial times would say. So let's try to address the key challenge of this world.
Sans faute, for sure. Mais attention.
Faudra lui demander
attention.
Ce qu'il voulait
moi,
dire.
J'aimerais rencontrer Emmanuel Macron une seule fois dans ma vie, rien que pour lui demander ce qu'il a voulu dire.
Mais surtout qu'il n'est pas mauvais en anglais.
Non, il est très bon. Je l'ai dit, le reste du discours était bien.
C'est Cyril,
là, l'intro était vraiment étonnante. Attention, plus dur. Vous vous souvenez tous de la phrase, car Cyril l'a depuis reprise à son compte et sortie à tous nos stagiaires qui réclamaient des CDD. Je traverse la rue et je vous trouve un travail. Vous vous souvenez peut-être aussi qu'il s'adressait à un jeune horticulteur sans emploi, mais où se trouvait donc Emmanuel Macron quand il a prononcé cette phrase?
Je peux le dire sans le... Essayez. Je peux essayer.
Vous pouvez essayer, mais c'est-à-dire que si vous vous plantez, vous perdez 5 points.
Okay.
C'est-à-dire que c'est un gros défi.
Il allait vers le trottoir en face de l'Élysée.
Oui.
Le jeune homme était sur le trottoir d'en face.
J'accorde cette bonne réponse.
J'ai l'impression en
régie que ce n'est pas la bonne réponse.
Mon 5 du
coup.
Exceptionnellement, Léa peut rentrer dans le quiz pour nous donner la réponse.
Vieux-Port, Marseille.
C'est une mauvaise réponse, Léa.
Non, c'est pas vrai.
Si, c'était à l'Élysée pendant la journée du patrimoine. Léa.
Il va falloir vérifier.
For sure.
Parce que je suis presque certain qu'il est allé devant l'Élysée.
Alors, en régie, on me fait signe quoi ?
Courade, il faut regarder là. Oula, tout le monde.
Dans les jardins de l'Élysée, durant la journée du patrimoine,
c'était
en 2018.
Je suis sûr que c'était à Marseille.
Moi, je traverse la rue et je vous en trouve du travail. Un banger qui marche toujours, un peu comme.
Mais d'où ça sort ?
La phrase dont on parle date du 17 septembre 2018 et elle a même sa page Wikipédia tellement elle est célèbre. À noter que la page Wikipédia du tube D'où ça sort que vous entendez est actuellement elle aussi en cours de construction, mais comme c'est Cyril qui l'a construit lui-même sur Linux, elle ne sera pas accessible dans un futur proche. Fun fact concernant cette phrase dite du « mais moi je vous en trouve du travail », d'après vous, quel conseil futé le président Macron a-t-il ensuite donné aux jeunes désinvoltes qui prétendaient que c'était dur de trouver un emploi ? Il lui a conseillé de bien regarder à droite et à gauche avant de traverser ? De regarder seulement à droite parce que rien de bon n'arrive jamais quand on regarde à gauche, ou d'aller faire la tournée des bars à Montparnasse.
C'est. Parce qu'il était.
C'est, mais sans conviction de la part
pour l'hôtellerie, non, mais il bossait dans l'hôtellerie.
Exactement. Ce jour-là, le président avait effectivement recommandé aux jeunes de se tourner
5 points là-dessus.
Vers les métiers de la restauration. Oui,
c'est bien,
ça s'appelle l'actualité.
Ouais,
mais bon, c'est un peu notre métier.
Et donc, il lui avait proposé de faire la tournée des bars du quartier Montparnasse, qui avait beaucoup choqué à l'époque Manon, pour qui on ne peut pas forcer quelqu'un à aller travailler en province. Mais attention, top. Le train du mépris vient d'arriver, voie 3, éloignez-vous de la bordure du quai. Nous sommes le 28 juin 2017, à l'inauguration de la station F à Paris. Et ce jour-là, Emmanuel Macron va donner une très belle définition de ce qu'est une gare. Une gare, c'est un lieu où se croisent parfois ceux qui n'ont rien et ceux qui ont tout. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La gare, c'est un lieu où on pourra croiser toute l'équipe de Zoom Zoom Zen vendredi, car ils seront en déloc à Rouen.
B et C.
B, que B.
Donc pour vous, Emmanuel Macron, en 2017, a annoncé notre délocalisation à
Rouen.
Non,
mais on peut vraiment nous croiser à la gare.
C'est une bonne réponse de Quentin, et seulement
vendredi.
Quentin. La prochaine
vrai.
Fois.
On peut vraiment nous croiser à la gare vendredi.
Oui, mais Macron,
ah oui,
Macron
l'a pas dit. Oui, ok.
Oui.
Si vous voulez.
Si vous voulez, c'est juste la réponse. La prochaine fois que vous attendez votre Ouigo Garcin-Lazare, posez-vous la question, est-ce que vous avez réussi dans la vie ou est-ce que vous n'êtes rien ? Pour Emmanuel Macron, la réponse est dans le fait même que vous voyagiez en Ouigo. Enfin, pour terminer cette visite au musée des citations macroniennes frappées au coin du bon sens, que diriez-vous d'une touche d'exotisme ? Dans quel contexte Emmanuel Macron a-t-il lancé « Le Kwassa-Kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c'est différent ». Sachant que le Kwassa-Kwassa est un petit bateau de pêche que les Comoriens utilisent pour rallier illégalement Mayotte. D'après vous, cette phrase a été prononcée en pleine visite officielle aux Comores, autant attaquer le mal à la racine, à Mayotte, toujours brosser l'autochtone dans le sens du poil, ou dans le Morbihan, il fait bon rire après une galette saucisse.
B. C.
Absurde.
B. C'est A ou B, mais je pense que c'est...
Vous avez misé sur l'absurdité,
ouais,
Manon.
Ouais.
Vous avez tout misé, vous avez fait all-in sur l'absurdité. Ah. C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Effectivement. L'inspiration lui était venue en visitant le centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique d'Etel dans le Morbihan, et donc forcément après une galette saucisse, vu que c'est ce qu'on mange dans le Morbihan. Défaite de la dignité et victoire de Manon Mariani.
Quoi ? Non mais arrêtez, j'ai gagné ?
Vous avez remporté ce quiz, Manon, et c'est lamentable, moins 2 à moins 3.
Ah oui, non mais
voilà,
il nous,
nous en
trop
sommes.
Points,
ah oui, ça n'a plus de sens,
c'est
arrêtez
normal,
de jouer.
C'est normal, vous trichez et vous dites des âneries.
Personne ne triche.
Personne n'a triché.
Vous jouez en négatif.
Ils ont souvent des pénalités.
C'est nos rédacteurs en chef qui nous enlèvent.
Je suis contente de ne pas avoir joué finalement.
Bah oui, c'est mieux comme
sur
ça.
Sur le vieux port, là, je me suis bien merdée.
Ah oui, donc le vieux port, là, allez, attention.
Ouais.
Vous avez certainement vu l'expression passer. Qu'est-ce que la France à Macron ? Ce terme qui revient beaucoup dans la bouche de la Gen Z et sur les réseaux sociaux. On est toujours avec la journaliste Léa Chamboncel, créatrice du média Popol. Alors, on a parlé là des difficultés financières des étudiants.
Ça a failli.
Oui, ça a failli. J'ai hésité entre Popol, entre Pol Pot. Enfin, beaucoup de choses se sont mélangées dans ma bouche. Effectivement. Et il y a une mesure qui a été largement poussée par Macron, c'est l'alternance qui crée des situations compliquées pour la Gen Z. Beaucoup se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent pour trouver un contrat, ces fameux contrats en alternance. Et ils imputent la situation à la France à Macron. Là, on était à la limite de la fausse bonne idée sur ces contrats d'alternance.
Écoutez, moi je sais pas, mais je suis toujours très méfiante à l'égard du pouvoir politique qui oriente les carrières des jeunes, de manière générale. Je suis fondamentalement convaincue que si on voulait une jeunesse heureuse et émancipée, qui puisse être libre de son avenir, il faut qu'elle puisse avoir des choix. Et très souvent, on se rend compte que lorsqu'il y a des mesures qui sont poussées pour davantage d'alternance, davantage de contrats professionnalisants, des choses comme ça, c'est que ça répond en réalité à des logiques macroéconomiques et rarement des logiques de bonheur et de bien-être.
De sens, ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est intéressant parce que on va dire un membre de la Gen Z, un jeune, va chercher du sens dans son emploi plutôt qu'un emploi bien payé. C'est peut-être ça la déconnexion aussi parfois avec les politiques.
Peut-être parce que finalement, je pense que c'est très difficile d'être jeune aujourd'hui dans notre pays et dans le monde de manière générale. Hein. On voit tout ce qui se passe. Je pense à l'Iran très fort. Je pense aux États-Unis aussi et d'autres pays où c'est dramatique. On voit que finalement les perspectives sont assez bouchées. Il y a une grosse sensibilité quand même de la jeunesse. Je veux dire, on n'est pas dans les années 90, on n'est pas la génération des boomers non plus, où on se rend compte que effectivement le dérèglement climatique c'est une réalité qui nous frappe souvent en pleine face vu les phénomènes d'actualité. Quasiment tous les jours. La difficulté de trouver aussi des emplois et des carrières stables, c'est aussi une réalité. Je veux dire, regardez ne serait-ce que le marché du logement également. Enfin, tout ça montre que finalement, l'avenir n'est pas très radieux. Certainement aussi cette quête de sens qui est liée. Et c'est en ça que je trouvais que dire que les jeunes sont dépolitisés, et c'est quelque chose de plutôt faux, puisque moi, je trouve que finalement, un jeune qui, par exemple, moi j'en connais plein, qui décide de ne jamais prendre l'avion par conviction politique et écologique, c'est un geste qui est éminemment politique, au même titre que d'aller voter, pour moi. Hein. Je pense qu'il faut vraiment le mettre sur le même niveau, parce qu'ils ont une conscience de cette société dans laquelle ils évoluent. Ils sont pour certains, pas tous, hein, évidemment, mais c'est aussi ça, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que tous les jeunes ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a plusieurs catégories de jeunes, et malheureusement, malheureusement par un souci pour un souci de bon bah de facilité, on a souvent tendance à mettre tout le monde un peu dans le même panier et là c'est une erreur à ne pas faire.
Ils ont plus d'argent aussi, voyager ça coûte très très cher au-delà de l'écologie.
Très très cher absolument, mais donc du coup je trouve qu'il y a quand même les marches sur les marches pour le climat, c'est les jeunes essentiellement. Donc il y a quand même une véritable conscience politique et je trouve que c'est pas leur faire vraiment un bon procès que de dire le contraire. Il y a effectivement je pense une quête de sens donc enfin où se place-t-on? Dans quel type de société on a envie d'évoluer, et certainement pas la société qu'on nous lâche et dans laquelle on, enfin, dont on hérite. Et la fracture, elle est certainement plus là, générationnelle, j'ai envie de dire.
La France à Macron, vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Dans la France à Macron, je voudrais la femme. Brigitte Macron, la première dame, devenue la cible numéro une des féministes depuis qu'elle les a traitées de sales connes à un spectacle d'Harry Habitant, on s'en souvient tous. Et elle n'en est pas à son premier scandale. À la fin des années 90, elle enseigne au lycée La Providence à Amiens. Elle a 39 ans et encadre un atelier de théâtre. C'est là qu'elle rencontre Emmanuel Macron, qui a alors 15 ans. Tous les deux ont toujours décrit une relation qui naît dans un cadre scolaire et intellectuel autour du travail et de la littérature. On ne sait pas exactement quand commence la relation amoureuse entre les deux, mais selon plusieurs proches, la situation inquiète déjà les familles et à Amiens, la rumeur enfle. Emmanuel Macron est alors envoyé à Paris pour terminer sa scolarité au lycée Henri IV. Mais leur relation ne s'arrête pas là. Brigitte Macron divorce de son premier mari au début des années 2000 et dira plus tard dans un livre qu'Emmanuel Macron a petit à petit vaincu toutes ses résistances. Je la cite, le couple se marie en 2007 au Touquet. L'élection présidentielle de 2017 projette évidemment Brigitte Macron sur le devant de la scène et leur relation atypique, entre guillemets, 24 ans d'écart, est scrutée et parfois critiquée, souvent moquée. Il faut dire que c'est rare de voir une femme plus âgée avec un homme plus jeune, alors que l'inverse est totalement courant. Les normes patriarcales et le sexisme sont évidemment la cause de ces injonctions. Brigitte Macron s'engage principalement sur des sujets éducatifs, que le handicap ou encore la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle va aussi succéder à Bernadette Chirac et participer chaque année à l'opération Pièce Jaune. Et puis, depuis quelques années, la première dame est aussi la cible d'une fake news transphobe sur les réseaux. Elle serait née Jean-Michel Trogneux et serait en réalité un homme. Elle se fait cyberharceler à ce sujet par des milliers de personnes jusqu'à attirer l'attention de la trumpiste complotiste Candace Owens. L'influenceuse, suivie par des millions de personnes sur YouTube, fait régulièrement des vidéos sur la supposée double identité de Brigitte. Brigitte Macron, elle, a engagé plusieurs procédures judiciaires. Au début de l'année, 8 prévenus ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme. Elle a aussi attaqué Candace Owens et un procès doit se tenir aux États-Unis. C'est une première pour la femme d'un président. Et puis rappelons aussi que pendant les Gilets jaunes, elle a aussi été la cible de menaces et de fake news. Une violence qui l'a profondément marquée, dira-t-elle plus tard.
Merci Manon. Léa Chambrosel, pour revenir à ce que Manon disait au début de sa chronique, les propos tenus par la première dame dans les coulisses du spectacle d'Harry Habitant, ça aussi, ça participe de la déconnexion du couple Macron avec les jeunes, peut-être ?
Ah, c'est au-delà de la déconnexion, là. Je pense que c'est de l'hypocrisie et c'est de l'insulte, en fait. C'est très grave. C'est très grave, parce que je vous rappelle quand même que Brigitte Macron faisait la couverture avec des féministes, les couvertures de grands magazines pour dire qu'il n'y aurait plus de violences sexuelles et sexistes. Ça a été la grande cause du quinquennat, des quinquennats. Non, c'est très inquiétant et le message est excessivement grave, notamment dans le contexte. Hein. On sait que le comédien est accusé de violence, donc... Je trouve ça. Enfin, je pense que c'est de l'hypocrisie et c'est vraiment au-delà de l'insulte. C'est encore. Bah, je pense que ouais. Finalement, j'y reviens. C'est du mépris.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Vous connaissez Denver, le dernier dinosaure. Je vous présente à présent Pierre Courade, le dernier macroniste. Enfin, le dernier. Disons qu'il fait partie des derniers fidèles avec Bruno Roger Petit et Roland Lescure. Ils sont, cela dit, plus critiques que lui envers Emmanuel Macron. Il est donc l'homme idéal pour nous résumer en une minute chrono tout ce qu'on s'est dit sur l'expression « la France à Macron ». Allez-y, mon cher Pierre.
Une formule consacrée par la Gen Z sur TikTok. C'est pour cette raison qu'on n'a pas parlé de la France de Macron. C'est Léa Chambrosel, la journaliste, qui nous a expliqué ce qui se cachait derrière cette expression. La France à Macron, c'est celle de la jeune génération qui a grandi sous les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, plus jeune président de la 5e République, mais qui n'a jamais su parler à la jeunesse. Un président qui a tellement incarné le pouvoir qu'il a cristallisé toutes les critiques. Il faut se mettre dans la peau de cette génération, même si ça peut être compliqué pour certains autour de la table. Une génération qui a vécu dans la France des confinements successifs, de la guerre en Ukraine, de la montée du populisme. Une France surtout qui n'a pas assez protégé les étudiants, victimes directes de l'inflation et de la baisse des aides. Une France où trouver une alternance ou un logement est devenu un parcours du combattant. Mais la France à Macron, ce n'est pas une France résignée, nous a expliqué Léa Chamboncel. C'est une France qui se bat contre les violences sexistes et sexuelles et contre le dérèglement climatique. C'est une France qui vote moins mais qui s'engage différemment. C'est une France méprisée par les boomers et la classe politique mais qui a grandi dans un monde autrement plus inflammable. La France à Macron, à travers ce qu'elle véhicule dans le fond, conduit à une convergence à des luttes générationnelles, notamment sur le sujet de la précarité et du déclassement. Une France qui n'a aucune perspective ou très peu et à qui on demande dans le même temps d'entrer dans le rang, dans tous les sens du terme.
Et s'il est en train de retourner sa veste, bravo Pierre Courade pour ce résumé.
C'est incroyable.
Vous l'avez conquis.
Comme quoi la Startup Nation.
Ça fonctionne. Et si le renouveau de la France ne consistait pas tout simplement à lui confier les clés du camion? Voici Harold Barbet.
Les auditeurs ne pourront s'en apercevoir qu'en regardant la vidéo, mais me voici devant vous, affublé de mes plus belles lunettes de soleil. Alors non, je ne me prends pas pour notre président, moi les gens m'aiment, mais je souffre d'un trouble oculaire comme lui. Alors oui, c'est vrai, je ressemble à un narcotrafiquant colombien. Mais est-ce que cela va m'empêcher d'assurer ma chronique? Que nenni, je suis bien là, les conjonctives inflammées et tartées de sécrétions, prêts à assurer la partie troubadour de l'émission. Et je tiendrai, quoi qu'il en croûte, car j'ai des choses à dire. Alors que je mène un combat de 5 semaines contre la conjonctivite, laissez-moi vous parler de la difficulté de trouver un ophtalmologue en Provence dans la France à Macron. Je devais jouer à Sens samedi. J'aime bien faire de l'humanitaire de temps en temps, du coup... Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas d'urgence ophtalmologique dans Lyon, ni à Sens, ni à Auxerre. Comment c'est possible? Le département des tueurs en série. Tu risques de te faire arracher l'œil et violer l'orbite à chaque coin de rue. Et il n'y a pas d'ophtalmo. C'est ça, la France à Macron en 2026. Lui, Macron, il a eu son ophtalmologue. T'inquiète qu'il n'a pas eu besoin de se promener dans les rues de Sens avec l'œil droit qui ressemble à un vagin fatigué après l'accouchement de triplé siamois. Il est pépère, lui. Les lunettes à la Rick Hunter, les roues flaquettes. Je me prends pour chanteur des Forbans, la vie est belle. Il s'est pas retrouvé aux urgences à Paris un samedi soir entre un SDF qui faisait de l'accordéon avec sa poche à caca et un membre de la mafia albanaise dont l'œil ressemblait à un hamburger. Toi aussi, tu t'es pris un pain dans la gueule? Non, apparemment, je suis une allergie à ma nouvelle huile de barbe. Un échange étonnant, me renvoyant à ma condition invétérée de sale petite mauviette. J'ai attendu 5 heures. Parce qu'il n'y avait qu'un seul interne pour toutes les urgences. C'est limite si c'est pas moi qui ai dû la réconforter tant elle était en burn-out. Et je cherchais une boîte de Kleenex pour lui tendre un mouchoir, mais il n'y en avait pas. L'hôpital public dans la France à Macron, c'est comme Mbappé qui s'adresse à Aurel San. Il n'y a pas un rond. Faute de mouchoir, je lui ai tendu ma compresse pleine de pus. Elle n'a tellement pas l'habitude d'être considérée qu'elle l'a prise. L'aspect filandreux qui reliait mon œil à son nez n'était pas sans rappeler le spaghetti dans La Belle et le Clochard. Un beau moment de complicité, médecin patient. Le SDF lui a prêté 50 centimes pour qu'elle puisse se prendre un café à la machine. Et c'est bien, c'est ça la France. On se serre les coudes, on doit pas avoir l'impression de se faire broyer les burnes en fin de mois. Car c'est aussi ça, la France à Macron, la précarité. Le prix du pain a été multiplié par 10 depuis les années 80. Pour les étudiants, s'acheter une baguette, c'est presque un luxe. Et il le sait, Macron. Monsieur le Président, les Français n'ont plus de quoi s'acheter une baguette. Eh ben, ils n'ont qu'à s'acheter un bâtard. De toute façon, c'est tous des bâtards. Je fais bien le jeune de banlieue, non, Brigitte? Faudrait qu'on invite un petit groupe de jeunes de banlieue pour la fête de la musique à l'Élysée. Tu sais, j'aime bien quand ils font la toupie par terre, là.
Du breakdance?
Ah oui, c'est ça. Du breakdance, for sure. Tiens, passe-moi mes nouvelles lunettes, Brigitte. Franchement, 660 euros, c'est cadeau. On se demande de quoi se plaignent les Français.
Les Français et toutes leurs sales connes.
Oui, tu as raison de préciser, Brigitte. Mais fais attention à ne pas être filmé quand tu le dis. Mépriser les Français, c'est comme manger ses crottes de nez. C'est savoureux, mais il faut éviter de le faire en public.
Oh mon Dieu.
Bon, avec toutes ces blagues sur Macron, j'espère que je vais enfin avoir ma petite mise en avant, parce qu'il y en a marre, il y en a que pour Merwan. Et vas-y que j'ai mes petites polémiques, ma petite commission d'enquête. C'est bon, c'est toujours les mêmes qui ont des problèmes. Il n'y en a que pour lui. Moi aussi, j'ai fait des blagues sur Elisabeth Borne et sur les chaînes d'infos au continu. Je n'ai jamais eu le moindre souci. Pourtant, j'ai aussi le crâne rasé et je suis certain que j'ai même une plus grosse barbe que lui. Je vois pas ce qu'il a de différent. Ah bah si, je vois. Mais c'est peut-être aussi ça, la France à Macron en 2026.
Merci beaucoup, Harold Barbet. On vous retrouve après-demain dans Zoom Zoom Zen en direct et en public de Rouen. Vous jouerez presque à domicile.
Absolument.
Debout.
Normandie.
Debout.
Et vous jouerez debout. C'est la nouvelle idée de
Cyril. Sur un pied.
Sur un seul pied gauche. On ajoute des difficultés.
Mais le pauvre, il voit rien en plus.
Bon, problème. Oh, ouais, c'est pas grave. Tu peux jouer debout quand même.
Il va trouver de l'estrade, c'est pas grave.
L'humour, comme l'amour, est aveugle. Pour ceux qui voudraient encore plus d'Harold Barbet, on vous retrouve en tournée le 13 février à Besançon, le 14 à Caudry, le 26 mars au Point Virgule à Paris. Merci Léa Chamboncel d'être venue nous éclairer sur cette France à Macron. On vous retrouve en podcast. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Non, mais l'humour comme l'amour est aveugle, vraiment cette phrase.
Oui, c'est
magnifique.
Ça, c'est du Baudelaire. La poésie.
C'est du Baudelaire.
Vous tenez à démarrer le quiz de demain aussi avec 5 points de pénalité?
Non.
En tout cas, j'ai l'impression qu'elle relève très bien vos bonnes blagues.
J'ai l'impression. Allez, me fais ton signe en résine. Merci Léa Chamboncel, on vous retrouve dans votre média, popolmedia.com. Merci d'avoir été avec nous.
Merci. Zoom Zoom Zen.